Inter, le 18-20.
Le 18-20 ce soir sur les jeunes dans la campagne présidentielle. On les dit massivement abstentionnistes, attirés d'abord mais pas seulement par le Front National s'ils se rendent finalement aux urnes dans un peu plus de deux semaines. D'autres font au contraire le choix de militer, d'intégrer un parti ou de soutenir un candidat. Beaucoup enfin voteront pour la première fois. On les appelle les primo-votants. Difficile de capter une image précise de cette jeunesse et de son rapport à la politique. Les formes d'engagement ou de désengagement sont nombreuses. On va donc essayer de les explorer ensemble. Jeunes auditeurs d'Inter, parents, citoyens, intervenez et racontez-nous quel fut votre rapport à la politique et comment les choses se passent également en famille. Le téléphone sonne jusqu'à 20h.
Nicolas Demorand, le téléphone sonne.
Twitter avec le mot-clé Telson, franceinter.fr et le standard d'Inter 01 45 24 7000. Bonsoir, Émilie.
Oui, bonsoir.
Bienvenue.
Merci. Donc voilà, je m'appelle Émilie, j'ai 25 ans, je suis jeune donc de gauche depuis mon plus jeune âge et militante. Et en fait, j'apporte juste un témoignage sur l'engagement des jeunes aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a un paquet de jeunes, contrairement à ce qu'on dit, qui sont engagés aussi à gauche et pas qu'au Front National. Mais qu'à partir d'un certain moment, le système des grands partis est bloqué. Donc d'abord aux jeunes et puis en plus aussi aux femmes, parce que je suis quand même aussi une femme. Et donc la tentation aujourd'hui, c'est, pour nous représenter, moi, j'ai plutôt envie de me tourner vers Emmanuel Macron, parce que c'est un visage neuf, c'est une ouverture à la société civile. Et voilà, en dehors des petits partis, même les Verts, hein, qui sont un peu plus ouverts aux jeunes, je trouve que sur les partis de gouvernement, PS et LR aujourd'hui, il n'y a pas forcément de place pour les jeunes.
Vous disiez que vous militiez depuis l'âge de 17 ans. Quel âge avez-vous aujourd'hui, Émilie ?
25, bientôt.
25 ans. Et donc, vous avez commencé où ? Redites-le-moi, parce que la ligne n'était pas très bonne.
Oui, moi, j'ai plutôt commencé au PS, en fait. J'ai toujours voté à gauche, Parti Socialiste, et je suis pas sûre aujourd'hui, enfin du moins dans quelques jours, de voter toujours à gauche parce que le discours ne me parle pas.
C'est-à-dire vous ne vous sentez pas représentée dans l'offre politique de gauche aujourd'hui ?
Voilà, je me sens pas forcément représentée, et puis les arrangements aussi du Parti Socialiste et les petites combines passionne pas a priori, et je trouve que le mouvement En Marche est plus un signe d'ouverture pour la jeunesse politisée.
Une dernière question, entre voter Emmanuel Macron et militer, de marcher avec son mouvement, pour vous ça n'est qu'un vote, hein, vous ne militez pas chez En Marche.
Non, je milite pas chez En Marche. Après, je vous cache pas que j'ai fait une ou deux réunions de comité, mais je suis allée au meeting voir ce que c'était. Et je pense que voilà, on parle de vote présidentiel là. On parle pas de militantisme quotidien là. On vote pour les 5 prochaines années. Et je pense qu'a priori, c'est celui qui peut représenter un vent d'air frais en tout cas.
Merci Émilie d'avoir ouvert ce téléphone sonne pour vous répondre, dialoguer avec vous. Je salue nos trois invités, Simon Vessière, militant de la France Insoumise. Bonsoir. Gaëtan Dussossé, responsable des jeunes avec Marine Le Pen donc, et Martial Foucault, directeur du CEVIPOF. Simon Vessière, vous avez quel âge ?
J'ai 19 ans, je suis primo-votant.
Primo-votant.
Voilà. Pour répondre à Émilie...
Oui, allez-y.
Voilà, nous on a un mouvement qui s'appelle la France Insoumise, c'est un mouvement où c'est ouvert à tout le monde, il n'y a pas de carte comme au PS, il n'y a pas de carte comme aux Républicains, on n'adhère pas comme au FN par rapport à mon collègue qui est ici. Aujourd'hui, on fonctionne selon les groupes d'appui, c'est-à-dire qu'on peut rejoindre un groupe d'appui volontairement, quel que soit notre âge, il n'y a pas de structure jeune, quelle que soit notre profession, étudiant, fonctionnaire, chômeur, qu'importe. Et on peut faire selon nos moyens humains, temporels. Et je pense que ça rejoint un peu ce qu'elle disait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas cette pression hiérarchique qu'on peut avoir dans un parti. Mmh. Et notre mouvement est vraiment ouvert à tout et permet de s'engager selon ses moyens.
Qu'est-ce qui vous a poussé, Simon, à vous engager au sein de la France Insoumise ?
Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes en général, et j'ai pu en faire partie aussi, sont dégoûtés par la politique pour plusieurs raisons. On les décrédibilise dans les débats, que ce soit les journalistes ou les politiques. On réprime leurs moyens d'action, on l'a vu avec la loi travail en 2016, hein, réprimé violemment. Et donc, quand j'ai découvert la France Insoumise, c'est la création du mouvement par Jean-Luc Mélenchon en février 2016, je me suis senti utile et j'avais l'impression de pouvoir donner ma parole, enfin de pouvoir m'exprimer librement sans avoir à suivre des discours stéréotypés qu'on me donnait au-dessus. Mmh. Et c'est ça qui m'a fait m'engager pour Jean-Luc Mélenchon.
Et donc, à 19 ans, c'est votre premier engagement militant?
C'est mon premier engagement militant.
Alors, je me tourne vers vous, Gaëtan Dussaucé, responsable donc des jeunes avec Marine Le Pen. Même question, votre âge et pourquoi vous êtes-vous engagé?
Alors, moi, j'ai 23 ans. Je me suis engagé quand j'avais 17 ans au Front National lors de la campagne présidentielle de 2012. Alors, pour quelle raison? Pour plusieurs. Je crois qu'en fait, ce qui permet un peu d'identifier la jeunesse, puisqu'elle est évidemment diverse, elle est diverse socialement, elle est diverse, il y a des jeunes qui ont des origines et compagnie, ce qui finalement nous rassemble, c'est toujours le désir de changement. On a toujours envie, on ne supporte pas l'ordre établi, on ne supporte pas le système tel qu'il fonctionne, et on veut toujours renverser la table. Alors il y en a qui veulent le renverser en renforçant le système tel qu'il existe, c'est le cas des jeunes qui soutiennent Emmanuel Macron, et puis il y en a qui recherchent une véritable alternative, une autre politique à celle qui a été menée depuis 40 ans, une politique ultralibérale, austéritaire, immigrationniste, multiculturaliste, et ces jeunes-là rejoignent aujourd'hui majoritairement Marine Le Pen.
Martial Foucault, vous dirigez le CEVIPOF, on a là trois paroles militantes, Simon Vessière, Gaëtan Dussaucé, Émilie au Standard. Émilie qui nous disait « J'ai quitté le militantisme au Parti Socialiste parce que je ne me sens pas représentée par ce parti ». Alors est-ce que c'est ça le premier problème quand on commence à réfléchir aux jeunes et à la politique ?
Oui, il y a je pense qu'il y a une part de vérité sur la distance qui s'est aujourd'hui installée entre des militants dans leur premier acte, militants dans des structures très hiérarchiques, des partis classiques, et aussi une évolution très profonde dans l'attente qu'ont... alors les jeunes, ça dépend de ce qu'on appelle catégorie jeune, mais pour simplifier,
18,
moins, de, voilà,
ans,
moins
ouais.
de 25 ans, en tout cas c'est comme ça que l'INSEE dans ses données de recensement catégorise les jeunes, il y a des attentes qui ne sont absolument pas satisfaites par le fonctionnement, un, aujourd'hui, des partis politiques, et aussi, plus généralement, de l'attente qu'ont les jeunes sur le débat, par exemple, le débat présidentiel. On voit bien que on s'attarde beaucoup sur le niveau d'abstention très élevé des jeunes. Mais est-ce qu'on fait de la politique seulement en allant voter à une élection présidentielle?
Il y a d'autres formes d'engagement
politique. Et je crois que lorsqu'on est dans une campagne présidentielle, on semble parfois un petit peu cantonné, isolé, l'acte politique des jeunes seulement à cette expression à la fois comme une forme de civisme, et on oublie, et les partis politiques, un grand nombre de partis politiques ou de formations politiques, oublient l'accompagnement des jeunes dans d'autres démarches politiques et citoyennes.
Ça, on va pouvoir y venir en détail. Deux questions supplémentaires avant de retourner au Standard. Simon Vessière, au sein de la France Insoumise, que faites-vous là pendant cette campagne? Que faites-vous de vos journées quand vous militez et que vous faites de la politique?
Alors, tout d'abord, nous, c'est pas une politique professionnelle. Enfin, moi, je ne fais pas une politique professionnelle ou d'expert. Je passe pas mes journées à militer. J'ai pas le temps. Je fais des études. En revanche, j'ai rejoint un groupe d'appui en septembre. Mmh. J'ai rejoint ce groupe d'appui. J'ai rencontré les gens qui soutenaient déjà Jean-Luc Mélenchon depuis février, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et on prévoit des actions. On a des réunions hebdomadaires. On prévoit des actions telles que des tractages à certains endroits, hein, près des métros, près de centres commerciaux. On va coller des affiches. Enfin, ça, c'est un militantisme, on va dire, lambda. Maintenant, aujourd'hui, on essaye d'ouvrir un militantisme nouveau. C'est ce qu'on fait en déclenchant une caravane qu'on a déclenchée cet été, qui a parcouru 51 villes. Donc, on va dans les quartiers populaires, on s'installe au milieu et on fait du porte-à-porte. On va voir les gens qui s'abstiennent, parce que c'est dans les quartiers populaires aujourd'hui que le taux d'abstention est le plus fort, vous me direz si je me trompe, hein. Mais c'est dans ces quartiers-là que les gens ne votent pas, ne votent plus, ils sont dégoûtés, ils ont l'impression que rien ne changera, quel que soit leur vote.
Et donc vous y allez un à un pour essayer de les convaincre de voter, etc.
Pas forcément pour les convaincre de voter, oui, mais pas forcément pour Jean-Luc Mélenchon à la base. On va les aider à faire de l'aide aux droits sociaux, c'est-à-dire qu'on a des simulateurs pour voir quelles aides ils réclament et quelles aides ils pourraient toucher. Et ça, les gens, ils ont besoin de ça, sentir qu'on a conscience qu'ils existent. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, ces quartiers-là, ils se sentent complètement abandonnés. Mmh.
Quelle forme de militantisme, Gaëtan Dussaucé, pour vous, auprès de Marine Le Pen? Vos journées ressemblent à quoi en ce moment, en pleine campagne présidentielle?
Elles sont très longues, déjà pour commencer, ouais. Bien évidemment, mais très intéressantes, bien évidemment.
Aussi,
Oui, mais c'est la base du militantisme, ouais. Hein, c'est-à-dire vraiment l'action militante, le tractage, le collage, le boitage, la distribution de tracts dans les boîtes aux lettres. Ce sont justement tous les jeunes sont mobilisés, les jeunes avec Marine sont mobilisés dans tous les départements de France avec des actions quasiment quotidiennes devant les universités, devant les lycées professionnels, devant les écoles, les centres universitaires, etc., etc. Donc ça, c'est le militantisme de base. Ah, ensuite, il y a aussi autre chose qu'on a pu développer, puisque vous savez que parfois, il est un peu difficile de pouvoir nous adresser à tout le monde et aussi d'avoir un message clair lorsque nous passons par cet intermédiaire que sont les médias. Et donc, nous investissons énormément, bien évidemment, et ce depuis très longtemps, les réseaux sociaux. Je pense à Facebook et Twitter en particulier, qui nous permettent de faire passer un message politique assez important avec une audience très importante et ce qui est parfois plus pratique que de passer par le miroir déformant médiatique.
Oui, enfin là, vous exprimez sans problème.
Ici, oui, là ça va.
On déforme rien. Mais tout, pour tout va
dire,
bien. Hein.
Pour l'instant, tout va bien parce que je peux m'exprimer directement.
Bah, c'est pour ça qu'on
vous a invité. Mais il est vrai que parfois, si vous voulez, vous allez sur des plateaux télé et vous ne choisissez pas vous les thèmes sur lesquels vous allez être interrogé. Et quand, par exemple, la semaine dernière, j'étais chez l'un de vos confrères et qu'on a passé une demi-heure de débat sur savoir si Manuel Valls devait soutenir Hamon ou Macron, tout le monde s'en fiche. Le débat présidentiel ne doit pas se reposer sur les soutiens des anciens cadavres politiques du gouvernement de Hollande.
Mais en tout cas, là, nous, on veut savoir ce que vous faites, comment vous militez, pour quelles raisons. On va retourner au standard et je vous redonne la parole, Simon Vessière et Martial Foucault. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue. Dites-nous votre âge.
Alors, je vous entends super mal, mais je vais commencer. Bah, j'ai 18 ans. Je suis ce que vous appelez le primo votant. En fait, c'est la première année où je vais voter. Je suis pas militant politique, mais je suis plutôt bien informé. Enfin, j'ai essayé de m'informer le plus possible pour cette campagne électorale. Mmh. Donc, mes sources d'information sont diverses. C'est France Inter, ça peut être Le Monde, ou ça fait enfin plein de journaux qui plus tard sont objectifs.
Mais alors vous atterrissez où, Nicolas? Vous atterrissez où après vous être informé là? Vous allez voter pour qui?
Alors je vais voter pour un candidat qui me semble, c'est-à-dire Philippe Poutou, le seul candidat ouvrier de cette campagne électorale.
Et ça donc, vous y êtes arrivé à ce choix de vote après tout un processus de lecture, de comparaison des différents programmes, etc. J'imagine.
Non, juste la conscience de classe, tout simplement. J'habite à Aulnay-sous-Bois, j'ai grandi dans une famille ouvrière, je sais ce que je suis, je sais ce que j'ai. J'ai un point de vue assez matérialiste, donc ça s'est passé effectivement par des lectures. Mmh. Et puis voilà.
Vous militez ou pas, Nicolas, ou vous allez juste voter? Enfin, je dis juste, c'est déjà très important d'aller voter, mais est-ce que vous militez?
Je milite pas dans un parti, mais rien que le fait de parler aux gens qui sont autour de moi, de discuter politique, je considère que c'est du militantisme et je pense que ça ouvre quand même pas mal. C'est important de discuter avec les gens autour de moi sur entre autres la politique.
Eh ben bon vote, Nicolas. Merci beaucoup de nous avoir appelé au téléphone sonne. Qui veut dire un mot là sur ce que vient de dire notre auditeur, Simon Vessière?
Pour revenir sur ce que disait Nicolas, donc il disait qu'il s'informait grâce aux journaux, grâce à la radio, j'imagine grâce à la télévision, grâce à ses lectures. Je pense qu'aujourd'hui, nous, pour parler aux jeunes, on a développé d'autres médias. On a essayé de contourner les médias, notamment grâce à la chaîne YouTube de Jean-Luc Mélenchon, qui fait quand même plus de 260 000 abonnés, ce qui est énorme pour une chaîne politique. Hein. C'est la première de France. On a développé nos réseaux sociaux. On a plus de 800 000 abonnés sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. On essaye de s'adapter à la jeunesse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, l'hologramme, on montre qu'on veut grandir avec la jeunesse, avec les innovations technologiques. Mmh. Et ça, je pense que c'est important pour intéresser les jeunes qui aujourd'hui sont désintéressés par les pratiques, les anciennes pratiques.
Je voudrais donner la parole à Martial Foucault d'un mot. Nicolas nous disait, c'est la conscience de classe qui me fait voter. Je suis issu d'un monde ouvrier. Je sais ce qu'est ce monde-là et c'est donc au nom de ce savoir-là que je vais voter Philippe Poutou. Comment dire, vous voyez dans vos enquêtes au CVPOF des parcours extraordinairement structurés comme ça sur le plan intellectuel et politique avec une conscience de classe qui détermine un vote?
Alors c'est très difficile de suivre, en fait il s'agit de regarder une cohorte, connaître le cheminement politique dans le vote des grands-parents, des parents et des enfants. Donc ça c'est un phénomène très compliqué à observer. Toutefois, quand on regarde sur notre ces jeunes qui vont voter pour la première fois, on interroge 2000 jeunes qui vont voter pour la première fois l'élection présidentielle, moi ce qui me frappe, et on le retrouve dans le témoignage de l'auditeur, c'est-à-dire il y a à la fois une dimension qui résiste et qui est forte dans le temps, c'est-à-dire le choix de vote en fonction du choix de vote des parents. Donc là, c'est un vote peut-être je dirais pas de conscience de classe, mais un vrai vote de classe socio-professionnelle. Et puis, il y a une autre dimension, moi, qui me surprend. Quand on regarde un petit peu l'intention de vote de ces très jeunes, on voit que c'est un vote beaucoup plus polarisé, beaucoup plus radicalisé. Donc, les jeunes par rapport au reste de la population, donc ces jeunes qui ont entre 17 et 19 ans, qui ont voté pour la première fois, votent davantage Jean-Luc Mélenchon que le reste de la population et davantage Marine Le Pen. Ce qui veut bien dire que les formes de politisation ne se réalisent plus dans l'entourage familial, mais vont au-delà. Alors, on peut avoir des explications. Est-ce que ce sont les réseaux sociaux qui sont aujourd'hui ce moment de politisation? Probablement, mais pas seulement. Et c'est, encore une fois, pour moi, une énigme pour comprendre les sources de politisation.
Comment ça s'est fait chez vous, Gaëtan Dussausset?
Le moment où j'ai décidé
de vous engager auprès de Marine Le Pen, c'est familial, c'est...
Ah non, pas du tout.
Non,
du tout, du tout. Aucun de mes parents ou de mes proches ne sont électeurs du Front National.
Et alors vous y êtes venu comment ?
Ça a été le fruit d'une réflexion, c'est-à-dire que par mon expérience passée, j'ai grandi en banlieue parisienne, donc au collège et au lycée, j'ai pu être confronté à des être confronté un peu au quotidien de tous les jeunes Français de la France périphérique. Et donc il est vrai que moi ça, j'ai découvert du coup l'importance de la politique, j'ai mené une grande recherche démocratique en regardant un peu tous les projets, toutes les interventions des différents candidats, familles politiques, familles de pensée, etc. Et j'en suis arrivé assez rapidement à Marine Le Pen. Je voulais juste réagir à ce que disait Nicolas, parce qu'en fait il montre quelque chose qui est très intéressant, c'est que contrairement à ce que peuvent croire nos aînés, il y en a beaucoup qui expliquent l'abstention chez les jeunes par un manque d'intérêt et de curiosité vis-à-vis du politique. En réalité c'est faux. Les jeunes sont très bien renseignés sur la politique et ils sont très politisés. Et ça, on le doit évidemment à leurs propres initiatives, où ils vont aller lire énormément de livres de sociologie, d'économie, d'histoire, de politique, mais aussi au travail pédagogique qui a été fait par des youtubeurs, je pense à Usul, à Minute Papillon, etc., qui permettent justement d'acquérir des connaissances qu'on ne voit pas forcément dans l'éducation scolaire classique.
Vous parleriez d'une abstention hyper réflexive quand ils ne vont pas voter.
Je pense, ils le font surtout en parfaite conscience des choses. Mmh. Ils savent pour quelles raisons ils ne vont pas voter. Ils savent pourquoi ils ne peuvent pas avoir confiance dans des gros partis comme le Parti Socialiste ou les Républicains et le FN. Nous, on se porte plutôt bien puisqu'on arrive en tête contrairement à votre candidat.
Un jeune sur deux ne vote pas, surtout.
Ah oui, mais ça, c'est bien le problème. Et donc, c'est ça qui est intéressant, de savoir pourquoi il ne va pas voter. Et il est vrai qu'ils ont, en travers de la gorge, des choses qu'ils n'ont peut-être pas pu vivre à l'époque, comme la trahison du référendum de 2005.
Le niveau de réflexivité des jeunes abstentionnistes, éclairez-nous, Martial Foucault.
Bon, je crois que le point de départ, c'est quand même, rappeler qu'un jeune sur deux déclare aujourd'hui ne pas avoir envie de voter. Pourquoi ? Il y a au moins deux explications fortes. La première, c'est qu'effectivement, les jeunes sont le principal, j'allais dire, véhicule moteur de ce niveau de défiance qu'ont l'ensemble des citoyens vis-à-vis du politique. Et c'est d'autant plus vrai chez les très jeunes, parce qu'il y a aussi, je dirais, on est dans un moment charnière pour ces 18-25 ans. C'est l'arrivée sur un marché du travail où les barrières sont nombreuses aujourd'hui. Donc si les barrières sont nombreuses, on est quand même dans ce schéma très vertical. Et la politique pour les jeunes est perçue de façon très verticale et non pas horizontale. Et c'est important ce que vous disiez, c'est-à-dire que ce moment politique, bien sûr, moi, je ne crois pas à cette idée que finalement, aujourd'hui, tous les jeunes qui iraient se rendre aux urnes ont fait ce travail d'information de façon très, très sophistiquée. En revanche, la possibilité d'un espace de dialogue et de finalement de remettre en place une conversation très directe entre des représentants politiques. Et on voit un certain nombre d'élus qui, quel que soit le bord d'ailleurs, qui essayent de réinstaller dans des quartiers difficiles juste un espace de dialogue avec des élus qui ne viennent pas pour dire voilà ce que je vous propose, mais simplement libérer la parole. C'est un moment important dans une démarche à la fois de politisation et aussi de conscience de vote.
On retourne au standard. Antoine, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Quel âge avez-vous, Antoine ?
Alors moi j'ai 18 ans.
C'est la première fois donc que vous allez voter.
C'est la première fois que je vais voter, oui. Alors
Vous êtes content ou pas déjà avant que vous nous disiez pour qui vous allez voter ? Vous l'attendiez ça, cette carte d'électeur et le fait d'avoir 18 ans pour aller enfin voter ?
Ah ben moi c'est vrai que ça fait quand même quelques années, 2-3 ans que je suis assez de près à la politique, que je lis de temps en temps les journaux, j'écoute France Inter beaucoup. Et donc moi je m'intéresse pas mal à la politique et j'attendais vraiment avec impatience cette carte d'électeur que j'ai reçue il n'y a pas longtemps d'ailleurs.
Et vous avez su ou pu faire votre choix dans cette élection ?
Oui, alors moi ça fait déjà un moment que je choisis Emmanuel Macron. Moi ça fait depuis mai 2016 que j'ai adhéré en Marche.
Et alors vous y faites quoi en Marche, Antoine ?
Alors moi, tout d'abord, moi je suis un peu toute l'actualité du parti. On m'a proposé donc de relayer des idées sur les réseaux sociaux. Après, en fonction de l'emploi du temps, bien sûr, on peut faire du porte-à-porte, participer à des réunions. J'ai assisté au meeting d'Emmanuel Macron, porte de Versailles, en décembre dernier. C'était un moment très fort, parce que bon, premier meeting, des mots assez justes, voilà. J'ai été assez touché par l'espoir qu'il donne.
Donc vous êtes un citoyen heureux d'aller voter pour la première fois et un militant heureux de militer, hein ?
Tout à fait, oui.
Bah écoutez, merci de...
Ouais, je voulais juste rajouter
allez-y.
Petite chose. J'ai oublié le nom du militant Front National. Je souhaitais juste
Gaëtan Dussaucé.
Voilà. À cette personne que moi j'ai grandi pendant plus de 10 ans dans le 20e arrondissement de Paris. Avec une grande mixité sociale, et ça apporte beaucoup. Et je voulais dire que voilà, sur l'immigration, je pense qu'il faut faire attention à tout ce que dit Marine Le Pen sur l'immigration, parce que la mixité sociale est extrêmement importante.
Restez en ligne, Antoine, restez en ligne, Gaëtan Dussaucé va vous répondre.
Oui, oui, j'aimerais bien répondre parce que j'ai longtemps souvent entendu cet argument. Bonjour Antoine, bonsoir plutôt. C'est vrai que moi je me souviens quand je militais notamment sur le marché de la Bastille, on venait me voir en m'expliquant mais le 11e, le 20e, etc. C'est fantastique parce qu'il y a une mixité sociale. Votre mixité, elle est fausse. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'il se trouve qu'en fait, dans ces arrondissements, vous avez un immeuble dans lequel tout le monde touche le RSA et un autre immeuble qui se trouve sur la chaussée d'en face où tout le monde paye l'ISF. Par contre, l'ISF et le RSA ne sont pas du tout sur le même palier. Donc je crois que ça ne correspond absolument pas à une réalité qui serait celle de la France périphérique, comme le disait Guy Louis, qui est plutôt celle justement des départements de la petite couronne ou de la grande couronne, où là, il y a justement une mixité qui n'existe pas. On est plutôt dans des ghettos, qui soient culturels, sociaux, etc. Mais qui ne correspond pas forcément à ce principe de mixité qu'on chante partout, mais que personne ne vit réellement.
Antoine ?
Moi je suis bien sûr pas d'accord, puisque bon, moi je vous dis, j'ai vraiment vécu dans cet arrondissement, et j'ai été dans une école où j'ai eu plein d'amis d'origines différentes, qui sont tous français, mais d'origines différentes, et c'est une richesse, et je le ressens vraiment, puisque en effet, moi dans mon immeuble, il y avait des gens peut-être au RSA. Mais non, mais il n'y avait pas que des gens au RSA ou qui touchent les SF, c'est pas du tout ça. Je pense qu'il faut arrêter avec ce clivage qui est dans la réalité des choses est assez faux.
Alors encore un mot de Gaëtan Dussaucé, oui, puis Simon Vessière, si vous voulez rentrer dans la conversation avec Antoine, allez-y.
Je peux juste lui poser une question.
Alors Simon Vessière pour la France Insoumise.
Je pense que c'est le programme, enfin il connaît bien son discours, enfin il connaît bien le discours du FN en général, c'est-à-dire que c'est un programme de haine, de division, on rejette l'autre, bien sûr que
on
si
peut en parler quand on propose avec Antoine,
oui mais on peut parler intelligemment avec moi aussi, il y a pas de problème. Mais on parle, oui mais dans le programme c'est pas une caricature, quand vous proposez que les enfants d'immigrés payent pour aller à l'école, c'est pas une caricature.
D'étrangers,
c'est vrai. Donc vous demandez que les enfants d'étrangers payent pour aller à l'école. C'est une caricature.
Oui, comme les Français payent ailleurs.
C'est une caricature.
Oui, comme les Français payent ailleurs.
Mais on est en France, on n'est pas. Vous ne prétendez pas à l'élection présidentielle à l'étranger. Vous
présentez
en France. Donc vous demandez ça. À quel moment vous vous dites que de ne pas éduquer les gens, ça va leur permettre de ce que vous dites, hein, de s'intégrer, ça va leur permettre de le vivre ensemble, de partager. C'est ça que vous proposez ?
C'est-à-dire
de diviser les gens ?
C'est quand même sur une durée de quelques années pour reprendre cette proposition. Et on demande en effet aux étrangers qui viennent, même en situation légale sur le sol français, de subvenir à leurs propres besoins, que ce soit sur l'accès à la santé, l'accès au logement, l'accès à l'emploi et à la formation. Pour une simple et bonne raison, c'est que nous n'avons pas les moyens, je vous rappelle quand même qu'à 6 millions de chômeurs, 9 millions de pauvres, on n'a pas les moyens de donner à tout le monde. Donc pour éviter qu'il y ait des pompes aspirantes qui existent encore, on demande cette chose-là. Maintenant, moi je voudrais juste poser une question à Antoine.
Il est encore là,
génial. Parce que j'ai quand même énormément de mal à comprendre. Qu'est-ce qui te plaît dans le discours de Macron alors qu'il est extrêmement vide ? Je ne sais pas si tu as vu le même reportage que moi sur le discours de Marseille, mais c'était quand même assez sidérant.
Antoine,
qu'est-ce que tu retiens comme proposition ?
Alors moi, bon, c'est vrai que le discours de Marseille, j'ai eu des examens, je n'ai pas vraiment regardé le discours, mais après je pense que le discours n'est pas vide. Il a quand même des propositions qui sont à la fois donc avec de l'équité. Il n'écarte personne, que ce soit les riches, les pauvres. Il essaie de rassembler un petit peu, et je pense que ça, c'est très important.
Il rassemble surtout le CAC 40 et le MEDEF en ce moment.
Non, pas du tout, parce que si vous avez bien lu son programme, vous allez pouvoir voir que dans les quartiers, il veut par exemple, bon, avec toutes les affaires qui s'est passé avec la police, avec l'affaire Théo, Il veut une police vraiment qui n'est plus d'intervention, mais d'écoute avec des ententes avec les élus locaux, les associations, pour essayer de faire force à tous ces clivages que le Marine Le Pen ne cesse de dire en permanence, et qui est vraiment dommage, puisque Marine Le Pen influence les gens qui ne sont pas au courant de ce qui se passe vraiment dans tous ces quartiers. Et je pense que j'invite à toutes les personnes qui nous écoutent à s'informer, surtout par la presse, à s'informer ce qui se passe vraiment dans les quartiers. Voilà.
Restez en ligne, Antoine, il manque un écolo à cette conversation. Bonsoir, Quentin.
Bonsoir.
Vous avez 23 ans, on vous écoute.
Exactement. Oui, alors voilà, j'ai 23 ans, donc je suis militant écologiste depuis 2 ans, donc c'est tout récent. Et moi, je voulais juste témoigner d'un fait que je ne suis pas d'accord quand on dit que les jeunes sont désabusés de la politique.
Moi, ce qu'on entend ce soir au téléphone sonne ne le sont absolument pas. Effectivement, je vous laisse la parole.
C'est vrai que ça confirme exactement mon ressenti. C'est qu'en fait, on est dans l'action politique. Donc, soit on milite, soit on ne milite pas. Mais quand même, on se tient au courant, on se tient informé. J'ai des amis autour de moi avec qui on discute beaucoup de tout ce qui a trait justement à la politique, même du débat, et des amis qui vont voter Fillon. Donc, c'est vraiment à l'opposé de mes convictions. Et le sentiment de désabuser ou de désintérêt de la classe politique, paradoxalement, je le retrouve plutôt chez les adultes, qui sont de la génération de mes parents, ou même un peu plus jeunes, qui eux, peut-être, alors c'est parce qu'ils sont moins idéalistes, je ne sais pas, mais se désintéressent plus de la politique. C'est dans ce sens-là, moi, je vois plutôt le sentiment d'être désabusé vis-à-vis de la
Quentin,
classe politique.
Quentin, donc, vous avez votre carte d'Europe Écologie Les Verts. Est-ce que vous voulez dialoguer, dire quelque chose à Simon Vessière de la France Insoumise, Gaëtan Dussossé des Jeunes avec Marine, ou Antoine qui est encore avec nous et qui, pour son premier vote, va voter Macron?
Alors bon, moi, le vote Macron, c'est pas un vote qui me correspond justement à cause sur la question principalement environnementale. Bon, bien évidemment, par rapport à d'autres valeurs, je ne veux pas être en accord avec la personne qui est militante de Marine Le Pen. Et la personne avec qui je pourrais avoir le plus d'atomes crochus sur la question environnementale, c'est bien évidemment le soutien de la personne qui est soutien de Jean-Luc Mélenchon, même si ce que je regrette un petit peu chez Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il ne parle d'écologie que depuis le début de la campagne ou dans les mois qui ont précédé la campagne. Et voilà, après c'est une question qui transcende les partis, et dans l'absolu, on ne peut que se féliciter de voir que certaines personnes qui n'en parlaient pas, ou très peu, en 2007, ou en 2012, pardon, ou dans les années précédentes, se saisissent de cette question-là.
Et vous allez voter pour qui, alors, Quentin? Parce que Yannick Jadot est sorti, là, de la course.
Eh bien oui, c'est à titre personnel, je n'étais pas pour la sortie de Yannick Jadot, mais bon, du coup, je me retrouve, moi, un petit peu embêté, et même si, bien évidemment, la personne qui catalyse le plus la question environnementale, c'est Benoît Hamon, en raison du soutien de Yannick Jadot.
D'accord, ouais. Donc vous voterez pour lui. Qui veut intervenir, Simon Vessière?
Je suis pas totalement d'accord sur le fait de dire que M. Benoît Hamon catalyse la politique environnementale. Il ne propose d'ailleurs pas la sortie du nucléaire totale. Hein. Il propose de la réduire. Nous, on propose quand même une sortie totale du nucléaire en 2050. Je pense que c'est pas négligé pour quelqu'un qui s'intéresse à l'écologie. Ensuite, dire que monsieur...
Vous allez le retourner, là. Allez-y,
non,
encore.
Non, mais c'est pas... dire que monsieur Mélenchon ne parle d'écologie que des mois qui précèdent la campagne, c'est ne pas l'avoir écouté. C'est vrai que c'est une réflexion qu'il a depuis peu de temps, on va dire, depuis 2012, qui est née en 2012. Et bien sûr, c'est quelque chose qui se fait sur le long terme. Et on propose quand même une planification écologique intéressante avec la recherche des énergies renouvelables, comme la houle avec la mer. Les panneaux solaires, faire des vitres solaires sur tous les bâtiments. Je pense que le candidat écologiste, c'est Jean-Luc Mélenchon.
Alors, il manque un soutien de François Fillon à cette conversation. Bonsoir, Yanis.
Bonsoir.
Vous nous appelez de Sceaux. Racontez-nous votre vie. Quel âge avez-vous?
J'ai 17 ans.
17 ans.
Et je suis encore lycéen.
Oui.
Et ça tombe bien, vous m'avez pris au bon moment parce que je suis au QG de campagne de François Fillon.
D'accord. Qu'est-ce que vous y faites?
Eh bien, nous sommes à une réunion publique avec Roger Carucci, qui nous explique les 3 dernières semaines à suivre, la temporisation de la campagne, et comment détruire un peu le programme de néant d'Emmanuel Macron.
Vous avez 17 ans, Yanis.
C'est ça.
À vous entendre, on dirait que vous en avez 35, voire 40.
Bah, je prends ça pour un compliment. Hein.
Bah oui, c'était pas une insulte dans ma bouche.
Bah oui.
Rejoignez les vieux. Donc vous êtes soutien de François Fillon, pour quelle raison? Vous avez 17 ans, donc vous n'allez pas voter?
Non, malheureusement.
Malheureusement. Pourquoi vous soutenez François Fillon?
parce que j'ai l'impression, ou plutôt j'ai l'intime conviction, que c'est le seul candidat qui a une légitimité et par la primaire une crédibilité avec un programme construit et solide par rapport à d'autres qui proposent un peu du rêve.
Alors qu'avez-vous envie de dire, là on a carrément un échantillon représentatif, hein, à Antoine qui va voter pour Emmanuel Macron, à Quentin qui va voter je crois pour Benoît Hamon, à Simon Vessière ici pour la France Insoumise ou à Gaëtan Dussossé pour les jeunes avec Marine Le Pen.
Et je les salue. Donc vous voulez que je vous dise...
Oui, enfin, si vous avez quelque chose à leur dire, entrez dans le débat, hein, vous y êtes le bienvenu, Yanis.
Très bien, très bien. Je ne saurais pas vraiment quoi leur dire.
Votez Fillon, c'est ça ce que vous auriez envie de leur dire, non?
Peut-être, oui, mais je ne sais pas, je ne fais pas de propagande là comme ça, mais bien évidemment, je pense qu'eux-mêmes, intérieurement, ils savent que la campagne, certes, n'est peut-être pas perdue, mais que leur candidat n'est peut-être pas le meilleur qui pourrait représenter les intérêts de la France pour les 5 prochaines années.
Alors, pour quelqu'un qui n'a rien à dire, je pense que ça va semer la panique. Simon Vessière, est-ce que vous êtes persuadé que votre candidat, au fond de vous, n'est pas le bon pour les 5 années à venir?
Bien sûr que non, bien sûr que non. Je pense qu'aujourd'hui, on a une urgence démocratique à laquelle on répond par la 6ème République. On a une urgence sociale à laquelle on répond par la protection et le partage. On a une urgence écologique à laquelle on répond par la planification écologique. On a une urgence internationale à laquelle on répond par la paix, parce que c'est dans l'intérêt de la France. Donc je pense clairement que Jean-Luc Mélenchon est le candidat.
Et Antoine, alors, est-ce que Emmanuel Macron est l'homme de la situation pour les 5 ans à venir? Yannis, sans doute, hein?
Oui, je le pense, surtout. On peut pas dire que Fillon soit l'homme de la situation. Il y a quand même plus des mises en examen. Il faut vraiment commencer à faire confiance à des gens qui ont une certaine transparence. Je pense que c'est important.
Et vous, Gaëtan Dussossois, pour le Front National, êtes-vous convaincu que Marine Le Pen n'est pas la femme de la situation? C'est ce que nous disait Yanis.
Non, moi je suis convaincu que c'est la femme de la situation pour le coup. Et c'est vrai que d'entendre qu'un jeune, parce que bon, pour le coup, selon les différentes enquêtes, je crois, d'opinion, chez les primo-votants, François Fillon était annoncé à 9%. Je veux dire, moi je suis choqué, je trouve ça encore trop. Parce que quand on voit un candidat qui propose la suppression de 500 000 fonctionnaires, la privatisation de la sécurité sociale, etc., au-delà finalement de l'aspect complètement antisocial du projet, il en reste pas moins que c'est aussi un projet complètement anti-jeunes, où on leur dresse un avenir, on leur propose un avenir, où c'est la précarité qui va prévaloir, où c'est la pauvreté, où c'est l'absence de services publics, l'absence d'un bien commun. Bref, c'est quelque chose qui est assez ravageur.
Enfin, Yanis, que répondez-vous à Gaëtan Dussossois? C'est pardon.
Oui, bien évidemment, Marine Le Pen, c'est bien, ils ont bien appris leur leçon. Comment dire?
Je sais penser par moi-même, hein, Yanis.
C'est pas Marine Le Pen d'ailleurs qui n'arrêtait pas de nous faire des grandes harangues pour nous dire qu'on ne devait pas regarder les sondages. Ah, vous ne suivez pas les conseils de votre présidente. Vous ne suivez pas les conseils de votre présidente. En tout cas, j'ai entendu la suppression de 500 000 postes de fonctionnaires. Cette dénomination est totalement erronée. Il faut quand même revenir au programme. Regardez, à mon avis, vous êtes assez myope quand il s'agit de regarder le programme des autres.
Vous n'êtes pas obligé d'être méprisant, monsieur.
Je ne suis pas méprisant.
Quand il appelait Yanis, ouais. Il a 17 ans.
Oui, mais vu comment il parle. Et puis c'est vous qui avez dit qu'il avait 35 ans, alors.
Non, j'ai dit qu'il me semblait, particulièrement...
Dites-moi tout, Yanis.
Politisé pour son âge.
Oui, moi je suis seulement réaliste, pardon, excusez-moi. Mais la suppression de 500 000 postes de fonctionnaires, non, c'est erroné, ça n'a pas lieu d'être.
C'est le non-remplacement de 500 000 fonctionnaires.
Exactement.
Voilà, donc l'absence de 500 000 fonctionnaires, 500 000 profs, infirmiers, militaires, gendarmes, policiers. C'est merveilleux.
François Fillon ne touchera pas aux infirmiers. Roger Carucci vient de nous le confirmer. Il l'a confirmé sur nombreuses chaînes et plateaux télé. Il ne touchera pas aux infirmiers. Il ne touchera pas aux professeurs. Voilà, tout simplement.
Dites-moi...
Il faut arrêter de croire qu'un fonctionnaire, c'est forcément un infirmier ou alors un professeur.
Vous êtes né en l'an 2000, Yanis, hein, c'est bien ça?
C'est ça. Vous savez tout, dis donc. Hein.
Je sais faire quand même une soustraction encore, même si j'ai 45 balais et qu'on va sortir avec Martial Foucault de ce studio et vous laisser tous discuter entre vous. Mais oh, oui, mais je sais encore faire une soustraction. Martial Foucault, je trouve formidable cet échange entre différents électeurs, différents militants. Comment le recevez-vous, cet échange?
Il manque peut-être un auditeur abstentionniste pour avoir un point de vue qui permettrait, c'est pas un reproche que je voudrais, mais un point de vue qui permettrait peut-être de comprendre un peu la logique de l'abstention, parce que finalement, il ne faudrait pas donner l'impression que l'ensemble des personnes qui sont intervenues sont tous à la fois mobilisés et ont une capacité de mobiliser. Il ne s'agit pas de remettre en cause le travail militant. Moi, il y a un point qui m'intéresse beaucoup, et peut-être qu'on peut, on peut le partager maintenant. Ce qu'on a pu observer avec des collègues de l'école d'économie de Paris, c'est pas tant la condition sociale, c'est pas tant le lieu de résidence qui permet de comprendre les mobilisations et le vote. Il y a une dimension qui, je crois, est très importante chez les jeunes, c'est la capacité à se projeter dans l'avenir, à construire un imaginaire. Et on trouve dans la France à la fois une France optimiste et pessimiste. Et ce qui nous a profondément frappé, c'est que le vote aujourd'hui autour de Marine Le Pen concentre principalement à la fois des jeunes et le reste de la population pessimiste sur l'avenir. Alors qu'Emmanuel Macron concentre l'optimisme. À l'inverse, pour l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, c'est pas un électorat pessimiste, mais ce n'est pas non plus un électorat optimiste. Et donc cette dimension de projection dans l'avenir est, à mon avis, un ressort important et de la mobilisation et du choix du candidat.
Hélène, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous nous appelez de Toulouse, racontez-nous.
Oui, alors je suis un témoignage de maman, en fait, de jeunes qui ne vont pas voter là, mais voteront la prochaine fois, et qui est aussi valable pour les autres élections. C'est-à-dire que par rapport au thème de l'émission qui était, ou au constat que vous avez fait en entrant, qui disait on ne comprend pas bien, voilà, alors on ne sait pas trop les cartographier, ces positions de jeunes. Moi, j'ai des discussions comme ça, parce que bon, ils s'intéressent quand même, et je trouve qu'on leur parle. Alors, il y a les réseaux sociaux, etc. Mais quand on va voir le vocabulaire qui est employé, les thèmes, etc., il y a des choses qui leur sont très, très accessibles parce qu'elles sont évidentes, c'est les affaires, ils ont tout de suite compris. Et par rapport à des questions beaucoup plus techniques sur le chômage, sur les fonctionnaires, sur le financement de la retraite, tout ça, sont très abstraits et sont traités comme tels. Et dans les débats, on ne s'adresse pas aux jeunes. Donc, qu'est-ce qu'ils en retiennent? Effectivement, les choses évidentes. Et là, bon, il y a de l'engouement, effectivement, c'est le sprint final sur cette élection, mais je pense aux législatives derrière, aux élections pour les maires. La façon dont on les traite aujourd'hui, c'est catastrophique, justement, pour leur intérêt. Et donc, on peut avoir une conscience de classe, ou peut-être avant, parce que les adultes allaient voter de toute façon, mais aujourd'hui, qu'on a des gens adultes qui sont désabusés et qui se permettent de ne pas aller voter, quel exemple pour leurs enfants? Alors, il y a ceux qui, effectivement, à un moment où on déclic, vont se renseigner. Mais moi, aujourd'hui, les miens, voilà, ils sont pas majeurs, mais ils ont pas forcément la maturité de votre intervenant précédent, la capacité d'aller lire, etc. Et qu'est-ce qu'ils en retiennent? Bah, finalement, voilà, des phrases basiques et qui sont plutôt des repoussoirs aujourd'hui que des choses très, très motivantes.
Merci, Hélène, pour ce témoignage et cette analyse. On va s'en servir comme conclusion de ce téléphone sonne. Je remercie beaucoup Simon Vessière, militant de la France Insoumise, Gaëtan Dussaucé, des jeunes avec Marine Le Pen, Martial Foucault du CVPOF, et puis Yanis, Antoine, Quentin et tous les électeurs qui ont téléphoné ce soir pour partager avec nous ces analyses donc sur le vote et la jeunesse. Merci encore.